Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Dmondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler de la sécurité à Mopti. Le processus DDR annoncé en faveur des milices Peulédogon à Mopti n'est pas encore effectif. Selon les acteurs, le processus doit faire face à quelques réglages. Ils estiment qu'ils sont en phase d'identification. Nos invités pourront parler donc sur ce plateau. Dr Ali Tunkara, sociologue-chercheur. Dr Bremaili Diko, professeur à l'Université du Mali. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Tout comme au Nord, il est question de désarmer les combattants du centre du pays. Alors nous ouvrons les débats avec vous, Monsieur Diko. Quelle lecture faites-vous de cette initiative du gouvernement ?
Bien, merci de m'avoir associé à ce débat pour parler toujours d'une zone qui me préoccupe davantage. Je pense que c'est une bonne idée. Après, ça c'est le principe. Mais la façon de mettre en œuvre ce DDR, moi, me fait poser plein de questions qu'on aura éventuellement l'occasion d'aborder au cours de ce débat. Mais en soi, l'esprit est salutaire parce que ça permet tant soit peu de réduire de la circulation le nombre d'armes qui circulent dans la région de Mopti. Mais je ne suis pas sûr que tel qu'on l'a enclenché, que ça puisse produire en tout cas des effets probants quand on sait qu'ailleurs, quand je parle d'ailleurs, je parle des régions du Nord, des acteurs de part et d'autre étaient identifiés. Donc, il y avait d'un côté la plateforme, il y avait de l'autre côté la coordination du mouvement de la Zawad. Et il y avait, en fait, au préalable aussi tout un travail de discussion entre l'État, la communauté internationale et les différents acteurs, donc CMA et coordination, pour identifier des lieux qui doivent servir à accueillir des combattants. Ces sites-là aussi avaient fait l'objet à la fois de consensus, mais aussi il y a un travail de préparation, d'identification de ces lieux, de visite de ces lieux, d'aménagement de ces lieux. Et plus tard, on a vu pratiquement un an et demi plus tard, le processus a été lancé et on voit que malgré toutes ces précautions, on n'arrive pas en fait à avancer véritablement pour les régions du Nord. Maintenant, s'agissant de la région de Mopti, comme je disais, je salue en fait l'esprit qui contribuerait éventuellement, en tout cas ça c'est, je pense, l'objectif recherché, à réduire le nombre d'armes qui circulent et à faire en sorte qu'il y ait une sorte de restauration de l'autorité de l'État dans cette zone et peut-être contribuer par là aussi à une sorte de refondation de la gouvernance de l'État dans cette zone et de faire en sorte que le vivre ensemble qui aujourd'hui est entaché puisse trouver en tout cas d'autres canaux pour s'exprimer. Mais à mon avis, on fait le focus sur une seule milice, en l'occurrence la milice Ambassagou, donc la milice Dogon qui est, qu'on le veuille ou pas, réputé collaborer avec les FDS. Et de l'autre côté, on parle des milices Peul. Mais bon, quand on parle des milices Peul pour la région de Mopti, moi, je me pose bien la question de quelle milice, en fait, il s'agit. Parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Et avec qui est-ce qu'on a discuté? Et si on sait bien qu'à Bamako, il y a des acteurs qui collaborent avec certaines de ces milices-là qui n'ont pas été véritablement associés à ce processus-là. Donc voilà, juste entre autres, quelques réflexions d'entrée de jeu.
Alors, M. Tunkara, pourquoi un DDR à Mopti?
Oh, je pense qu'au regard de l'analyse faite par Dr Diko, le DDR en soi, l'idée est à saluer incontestablement. Mais c'est vrai que si vous regardez un peu les dynamiques conflictuelles de la région de Mopti de 2015 à aujourd'hui, elle mérite nécessairement effectivement des réponses tout à fait satisfaisantes quant aux souffrances auxquelles les populations font l'objet dans ces différentes localités de Mopti concernées par l'insécurité. Mais moi, je pense que ce qui est inquiétant pour ce processus de désarmement, de réintégration des combattants qui seraient armés, c'est déjà la nature du génocide qui me pose problème. Sur quelle base allons-nous justement déclencher le processus? Parce que, du coup, il a quand même suffisamment mis en évidence. Si vous regardez le cas de la région de Mopti, vous allez vous rendre compte que l'État, certes, il peut être bien intentionné au regard des différentes rhétoriques qui sont entendues ça et là, mais lorsqu'on veut concrètement mettre en relief ces différents discours, on se rend compte quand même que il y a quand même un problème du diagnostic. Il est quand même biaisé dès à l'origine. Comment voulez-vous désarmer des acteurs, lesquels acteurs sont même méconnus par ceux-là qui sont censés les désarmer? Prenez toute la région de Mopti aujourd'hui, effectivement, il y a quand même pas mal de milices. Au lieu de s'attaquer d'abord, quelles sont les raisons profondes de l'émergence de ces différentes milices, ces raisons profondes sont mises sur la touche. Et je pense fondamentalement, un diagnostic qui, imaginons que vous soyez un patient, vous allez consulter un médecin, le médecin vous prescrit une ordonnance sans pour autant même vous examiner. Vous voyez donc, naturellement, le diagnostic il est biaisé. Car le biais s'explique par le fait que les raisons qui expliquaient la récurrence de l'insécurité dans ces différentes localités de la région de Mopti, ces raisons ne sont pas évoquées. Avez-vous entendu un jour que l'État central du Mali a démis certains magistrats de leurs fonctions parce qu'ils ont rendu une justice à géométrie variable. Est-ce qu'avez-vous entendu un jour que des policiers ou des gendarmes, même des agents des eaux et forêts, ont été à la limite licenciés ou limogés de leurs corps respectifs parce qu'ils ont racketté les populations dont ils sont censés justement les protéger et les sécuriser? Donc c'est pour vous dire que ce sont ces raisons, entre autres, qu'il faut d'abord commencer à apporter des solutions durables. La crise en elle-même va s'auto-régulariser d'elle-même, en fait, si toutefois ces solutions sont réellement questionnées. Mais dans le même temps, c'est vrai qu'il faut quand même remettre en cause aussi toutes les tensions aussi intra-communautaires qui dépasseraient.
Comment remettre en cause ces tensions-là?
Oui, naturellement, si vous regardez un peu les dynamiques conflictuelles dans la région de Mopti, elles ont quand même des particularités vis-à-vis de celles que nous assistons aux régions dites nord du Mali, notamment Kidal, Tombouctou, Taoudini jusqu'à Gao. Pour les cas précis de la région de Mopti, vous avez quand même des acteurs certes qui cohabitaient, il y a des siècles qui cohabitent d'ailleurs, il y a des siècles, voire des millénaires, mais laquelle cohabitation a toujours été quand même traversée par des tensions. Entre Pélé et Dogon, il y a des clichés. Entre Pélé et Bambara, il y a des préjugés. À la limite, certains penseraient qu'ils feraient l'objet de stigmatisations, lesquelles stigmatisations, il faut vraiment les prendre au sérieux. Vous allez dans les localités, sérieusement, si vous voulez, qui sont où les Dogons sont majoritaires, vous les demandez à propos de Pélé, vous allez entendre des propos quand même qui ne rassurent pas la cohabitation. Et de la même manière également, vous allez dans des localités qui sont majoritairement habitées par des Pélé, vous les questionnez quant au comportement dont les Dogons font l'objet, à leur égard, vous allez vous rendre compte quand même qu'il y a des clichés. Hein. Donc il est extrêmement important qu'on questionne d'ailleurs notre pyramide sociale. Comment vous pouvez comprendre, dans des localités où les gens sont originaires il y a des millénaires, ces mêmes gens sont considérés toujours pour des étrangers? Voilà, ça, ce sont des questions fondamentales qu'il faut avoir le courage de les poser. Comment vous pouvez comprendre, dans des localités où vous avez une minorité, une ultra-minorité qui s'accaparerait de toutes les ressources naturelles, notamment l'accès à l'eau, même les pâtiraux? Voilà, donc ça, ce sont des configurations anthropologiques qui sont extrêmement importantes, qui dépassent carrément la seule réponse militaire. Or, quand vous regardez tous les éléments de réponse que propose le gouvernement actuel, vous allez vous rendre compte que ce sont des éléments qui questionnent peu cette dimension du terroir. Or, cette dimension du terroir me paraît fondamentale pour une saisie réelle déjà de quoi les populations souffrent réellement, qui sont entre autres la question d'accès à une justice équitable, lesquelles insuffisances ont pour nom, et la manière dont le traitement serait senti inégalitaire vis-à-vis de certaines communautés que d'autres, lesquelles souffrances ont pour nom justement. La pyramide sociale elle-même serait tout à fait chaotique parce que une minorité serait justement serait considérée comme, si vous voulez, à la limite, elle a toutes sortes de prééminences vis-à-vis d'une écran de majorité qui s'est tout à fait mise de côté.
Ok. Alors, M. Diko, après l'analyse de M. Tunkara, est-ce une stratégie vouée à l'échec?
En fait, en soi, il n'y a pas une mauvaise stratégie, il n'y a pas une bonne stratégie. Tout dépend de plusieurs facteurs. D'abord, de l'analyse réelle du contexte. Ali a donné quelques éléments. Moi-même, j'avais abordé quelques éléments. Mais ça dépend aussi de la volonté réelle de celui qui met en œuvre cette stratégie. Ça dépendra aussi, surtout, des interlocuteurs qu'on va identifier comme étant des interlocuteurs sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir déposer les armes, donc démobiliser. Parce qu'après, une des choses, c'est de récupérer les armes qu'on voit. Et l'autre, c'est d'assurer une certaine pérennité de ce processus de désarmement. Parce que, qu'on le veuille ou pas, hein, des armes circulent, des armes, il en existe tous les jours, et on est aujourd'hui, le gouvernement malien est incapable de circonscrire la circulation des armes, même à Bamako, à plus forte raison dans les régions en conflit. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on peut se poser la question, est-ce que la stratégie est vouée à l'échec ou pas? Je ne pense pas qu'elle soit vouée à l'échec. En fait, l'échec ou la réussite de la stratégie dépendra de la volonté réelle des gouvernants à faire en sorte que le processus marche.
Et dans ce cas, quelle sera la responsabilité des représentants des communautés pour la réussite de ce processus?
Il ne faut pas d'abord se tromper. L'État est le garant du bien-être collectif et individuel. Pourquoi les communautés ont pris les armes? Ali a en fait évoqué la question de la gouvernance et nombre d'autres raisons en fait, qu'on a eu l'occasion d'aborder ici dans ce studio qu'on va, sur lesquelles on ne va pas revenir. Mais ce que je veux dire, c'est que la première responsabilité incombe d'abord à l'État. C'est l'État qui doit assurer la sécurité physique des personnes. Et ensuite, c'est l'État qui doit faire en sorte qu'il y ait les autres formes de sécurité, avoir une approche de sécurité humaine, c'est-à-dire que les gens aient accès en fait à l'eau, à l'électricité, à la justice, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a des tensions entre les communautés et à l'intérieur des communautés, Ali Tunkara l'abordait tout à l'heure. Il faut faire en sorte d'arrêter le cycle de la violence. Arrêter le cycle de la violence ne passe pas nécessairement par aujourd'hui, en fait, par un processus de dépôt des armes. Pourquoi voulez-vous que toutes les communautés déposent les armes si la même autorité politique, administrative est incapable d'assurer après leur sécurité. C'est-à-dire que les gens vont déposer les armes, que l'État veut bien que les gens déposent aujourd'hui, mais si après, il n'y a pas de force de tampon pour arrêter le cycle de la violence, les gens vont en fait sortir les autres armes qu'on ne voit pas aujourd'hui, qui sont cachées dans les puits, au bord du fleuve, des choses comme ça, et pour pouvoir en fait continuer la violence. C'est-à-dire que d'abord, avant la responsabilité même des communautés, c'est d'abord la responsabilité de l'État de faire en sorte que le gouvernement, en tout cas, soit un gouvernement, de mon point de vue, impartial, qu'il ne puisse pas être taxé de collaborer avec telle ou telle milice. Ça, c'est déjà un premier élément. Ensuite, dans un second temps, il faut faire en sorte qu'il y ait des unités combattantes, qu'on peut s'appeler des forces d'interposition, ça peut être la garde nationale ou des gendarmes ou des FAMA. En tout cas, trouver des mécanismes pour faire en sorte que dans les zones aujourd'hui, et les zones les ciblées, c'est les trois cercles d'Ogon, qui sont, bon, on prend peut-être, aujourd'hui, c'est plutôt le cercle de Bankas. Qui est le plus concerné. Hier, c'était le cercle de Kourou, mais demain, ça peut être n'importe quel cercle. On connaît les zones où il y a aujourd'hui de la violence, qu'il y a des forces d'interposition permanentes là-bas. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on envoie quelques patrouilles pendant un certain temps. Après, les patrouilles disparaissent. Donc, du coup, les communautés, ça ne les met pas en confiance pour déposer les armes. Quand vous déposez les armes, ceux qui sont venus pour assurer une certaine patrouille vont partir et après, l'autre peut vous attaquer du jour au lendemain. Donc, n'importe qui dans cette histoire, en réalité, est coupable, tout le monde est victime. Pas que les Peuls, pas que les Dogons. En fait, chacun est pris dans un jeu qui les dépasse. C'est une sorte d'arène, c'est une sorte de champ où chacun essaie de survivre. Donc l'État doit d'abord assurer la sécurité physique des personnes. Et quand on arrive à faire ça, avec des forces d'interposition, des petites unités de 10-20 personnes qui sont là permanemment, et on peut faire ensuite, dans un second temps, inviter les gens à déposer les armes. Et dans ce cas-là, la responsabilité de la communauté va s'engager, mais cela ne peut s'engager qu'en considérant aussi les responsables des différentes communautés qui sont à Bamako. Parce que qu'on le veut ou pas, hein, l'argent pour, d'une certaine manière, faire en sorte que les milices puissent acheter des armes, ça vient de Bamako, les armes viennent de Bamako. C'est ça la vérité. Et donc, on ne peut pas essayer d'engager un processus de DDR là-bas si, au même moment, on ne travaille pas avec les leaders locaux, enfin, les leaders, les ressortissants de ces communautés qui sont basés à Bamako. Et là, il y a des associations qui représentent des gens qu'on veut ou pas, ce sont des leaders qui, au niveau local, sont écoutés. Mmh. Et dans un troisième temps, on peut travailler avec les chefs des villages qui, aussi, ont une légitimité traditionnelle, qui, malgré l'insécurité, quand même continuent à rester au niveau local et qui savent qui est bandit, qui ne l'est pas, qui est djihadiste, qui ne l'est pas et avec qui collaborer. Peut-être dans un troisième temps, on peut collaborer avec le RICOTRA, qui est le réseau de communicateurs traditionnels, qui aussi est un groupe assez neutre, entre guillemets, qui peut aussi enclencher une sorte de dialogue, de discussion entre les représentants des différentes communautés au niveau local. Parce qu'après, c'est assez simple de faire partir des petits frélatins qui sont entre les villages qui sont connus.
D'accord. Oui, M. Tunkara.
Non, je pense que c'est important ce qu'il dit, la question de légitimité des acteurs qui sont engagés dans le processus. Mais c'est vrai que l'État, à ce niveau, je vais pas le dédouaner, il est quand même habité à une difficulté sérieuse qui consisterait à qui réellement impliqué dans le processus. Parce que, il l'a évoqué, hein, si vous prenez le différent leader, les différents mouvements armés, qu'ils soient Dogon, Peul ou autres, vous allez vous rendre compte quand même que ces différents mouvements sont majoritairement alimentés à partir de nos centres urbains en termes d'apport minéraire, même en armes. Hein. Donc ça, c'est important et qu'il faut vraiment carrément le prendre en compte dans le processus. Mais qu'à cela, les tiennes, il est quand même important aussi que, qu'on comprenne une chose. Lorsqu'on a un parent qui a tort, qui est en face d'un État central, même si cet État est défaillant, il est extrêmement important que ces centres urbains, qui seraient, si vous voulez, les réservoirs même du Mali profond, hein, se saisissent également de dire à leurs parents qui sont restés au village qu'effectivement, ils sont en tort, le fait qu'ils attaqueraient le Dogon, ils attaqueraient le Peul ou ils attaqueraient le Bozo. Donc, c'est pour vous dire que effectivement, dans nos différentes stratégies de lutte contre l'insécurité ou de l'extrémisme violent dans la région de Mopti, on questionne très peu l'apport justement de ces centres urbains quant à l'alimentation même de l'économie criminelle et même l'achat des armes. Ça, c'est extrêmement important comme analyse à intégrer dans tout le processus. Mais dans le même temps, la difficulté que l'État fait l'objet aujourd'hui, il y en a plusieurs, hein, même s'il y a une vraiment qui attire suffisamment d'attention, c'est la question justement de, si vous voulez, de l'équité entre les groupes. Hein. Vous voyez, quand vous questionnez les différents mouvements armés, qu'ils soient Dogon, Peul ou autres, vous allez vous rendre compte que certains penseraient qu'ils seraient lésés par l'État central. Vous voyez, donc quand vous êtes dans une dynamique où les acteurs ne vous font pas confiance au regard, parce que vous êtes dans un traitement parcellaire et partiel entre les mouvement, naturellement, il va de soi que toutes les solutions réfléchies à partir des salons, ben, quoi, soit vouées à l'échec. Donc, il est extrêmement important que l'État sorte aussi du déni. Parce que quand vous écoutez un peu la rhétorique politique, vous écoutez les acteurs qui sont sur le terrain, dans le même temps, vous lisez les différents rapports qui sont produits par des spécialistes en la matière, vous allez vous rendre compte que, est-ce que nous nous adressons au même phénomène. Oui, parce que l'État, il est quand même dans les dénis. Hein. Si vous regardez aujourd'hui à Kiri, vers toute la partie frontière qui fait, vers la partie du Mali qui fait frontière avec le Burkina, vous allez vous rendre compte qu'il y a des dynamiques conflictuelles qui sont tout à fait pressantes, mais l'État central est quand même dans les dénis. Ouais, donc ça, c'est important. Que l'État sorte dans ce déni, de saisir le problème à bras le corps, effectivement, d'écouter les vrais acteurs. Parce qu'aujourd'hui aussi, si vous voyez que ce conflit peine à avoir des solutions durables, je pense qu'une des raisons qui expliquerait cela résiderait dans le fait que les vrais acteurs qui sont le plus légitimés vis-à-vis des populations rurales ne sont pas sérieusement impliqués dans le processus.
Mais que voulez-vous dire par là? Ils ne sont pas vraiment...
Je veux dire par là qu'il ne s'agit pas de confier le processus à quelqu'un qui fait des paritions télévisées ou autres, là. Je ne suis pas contre, aucunement. Ou de le confier à des gens qui seraient des élus. C'est très bien que les élus soient impliqués, qu'ils soient des maires ou des députés. Mais je pense que les vrais acteurs aujourd'hui dans ces différentes localités concernées par l'insécurité ne sont pas forcément des députés, ne sont pas forcément des élus locaux. Mais plutôt, ce sont des acteurs isolés, ça et là. Mais les acteurs isolés ont une légitimité pas possible. Parce que vous allez à Boni, les gens vous diront que nous, si vous voulez que le problème arrive à son terme, on veut qu'un tel intervienne. Vous allez également dans des localités majoritairement peuplées par des Dogons, et vous diront que ces populations, elles vous diront qu'effectivement, pour que le problème arrive à son terme, il faudra qu'un tel acteur soit impliqué. Donc, c'est pour vous dire que toujours que la question du biais dans le diagnostic, elle apparaît nettement par le simple fait que les vrais acteurs, même s'ils ne sont pas sous la touche, en tout cas, ils ne sont pas au cœur du processus. Le processus, il est trop formel afin de pouvoir saisir les conflictualités dans leur dimension profonde. Or, pour ce faire, je pense qu'une des solutions au préalable à proposer, c'est de sortir dans le déni des gens. Hein, c'est de se dire qu'en nous sommes en face d'un conflit qui a une multitude de raisons, laquelle multitude de raisons nécessite impérativement l'implication des acteurs qui seraient basés dans les centres urbains. Et pour finir avec la question, prenez l'élite, si vous voulez, militaire Peul, l'élite militaire Dogon, l'élite militaire de l'administration judiciaire, l'élite communautaire de l'administration judiciaire, vous allez vous rendre compte quand même que lorsqu'il y a une arrestation à Boni, à Koro ou autre, ce sont ces élites-là qui sont saisies prime abord, avant même que l'État central n'intervienne. Donc c'est pour vous dire qu'attention, vous ne pouvez pas apporter des solutions durables à une telle situation de conflictualité tout en mettant de côté quand même ces vrais acteurs qui sont le plus écoutés que l'administration centrale dans ce qui était concerné par l'insécurité.
D'accord, oui. Monsieur Dicot, vous voulez ajouter quelque chose au propos de
Monsieur Tonkara? Non, c'était simplement pour dire que nous sommes finalement dans un pays souvent qui ne tire pas forcément les leçons des échecs. On a vu pour les régions du Nord tous les va-et-vient qu'on a fait, et puis pour le Centre, on reproduit les mêmes tas.
Mais comme vous le dites même, on a vu pour les régions du Nord, comment est-ce que la région de Mopti a-t-elle plongé dans cette situation-là?
Alors, comment elle a plongé? En fait, moi, je le dis assez souvent, dès 2012, la région de Mopti et le nord-est de Ségou, la zone de Diabali par exemple, ont été affectés par l'insécurité. Mais par des choix politiques, la communauté internationale, bon, qui ne voulait pas collaborer avec un Mali, bon, qui avait des soucis au niveau de Bamako, au niveau au plan politique, était préoccupée dans un premier temps par organiser des élections présidentielles. C'est tant mieux, on les a organisées. Et par la suite, c'est la même communauté internationale, d'une certaine manière, qui a tordu un peu voilà, notre main pour qu'on signe les accords avec les régions du Nord. Et sinon, dès le début, en début 2012, parce que quand même, il ne faut pas oublier, Douanza a été occupé par les Mujawo au même moment que les régions de Gao, Menaka et autres. Voilà. Donc ça veut dire que dès 2012, on aurait dû y associer le centre. Mais c'est un choix politique qui a fait qu'on a négligé. Et Diabali, en 2012, avait été attaqué. Togere Koumbé, dans le cercle de Tenenko, avait été attaqué dès 2012. Donc dès 2012, les prémices, au-delà même des prémices, des faits étaient là, qui pouvaient inciter en tout cas à aller faire quelque chose. Mais bon, ça c'est des choix politiques. Bon, on n'a pas tiré les leçons de ça. Ça veut dire que l'insécurité était là dès 2012. On n'a pas suffisamment considéré l'insécurité. On a laissé pourrir la situation. Mais il n'est jamais trop tard pour faire du bien. Mopti, aujourd'hui, la situation s'est envenimée. Parce que, un, on a laissé la situation pourrir. De deux, de 2012 à maintenant, l'État lui-même n'a pas su asseoir une certaine justice sociale qui fera en sorte que les communautés puissent avoir un bon regard avec l'État. Parce que de 1960, c'est même pas seulement maintenant, de 1960 à maintenant, le rapport que la région de Mopti un peu a avec l'État, c'est des rapports de ponction, c'est des rapports de raquette. Et quand vous regardez même l'identité des personnes qui sont inquiétées, qui sont enlevées ça et là dans le centre du Mali de façon générale, c'est des gens en fait qui représentent l'État. Donc, d'une certaine manière, c'est la question de la gouvernance qu'il faut interroger. Et même si on veut la paix, même si on arrive à travers le DDR à désarmer les populations locales, de mon point de vue, la violence va continuer tant qu'on aura les mêmes préfets, les mêmes sous-préfets, les mêmes juges qui vont venir dans l'idée en fait.
Donc selon vous, il faudra un remaniement complet.
Il faut une refondation de la gouvernance de l'État.
D'accord. Votre réaction?
Oui. Non, il faut une refonte quand même, si ça peut paraître un peu utopique pour certains qui nous écouteraient ou regarderaient. Mais je pense fondamentalement cette refonte, elle s'impose avec acuité. Parce que, je le disais dans, à l'entame de mes propos, si l'on ne questionne pas les causes profondes de cette récurrence de l'insécurité, naturellement, toutes les solutions qui seraient proposées... serait des échecs d'office. Donc je pense que fondamentalement, s'il y a un point commun aujourd'hui entre Peul, Dogon, Bozo, dans ces différentes localités concernées par l'insécurité dans la région de Mopti, ce point commun s'appelle une justice mal rendue, en fait. Ça, qu'on soit Peul, qu'on soit Dogon, il y a une unanimité à propos. Donc c'est pour vous dire qu'attention, il est tout à fait intéressant pour des fins électoralistes ou pour des positionnements à long terme du point de vue politique de proposer des solutions passagères. Mais si l'on veut réellement apporter des solutions durables, parce que quand on gère un État quand même, il faut quand même sortir du sensationnel. Quoi. Je pense qu'on est plus dans... On succombe à l'escalade émotionnelle dans le contexte malien, au lieu d'aller vers des solutions beaucoup plus globalisantes et durables. Et pour le cas précis de la région de Mopti, il est extrêmement important aujourd'hui qu'on questionne la justice. Ce n'est pas pour rien que les jeunes magistrats qui sont affectés dans la région sont super contents. On le sait. Et ils perçoivent le même revenu que ceux de Kayi, de Koulikoro. Pourquoi ceci ont des regains d'intervention de la région. Donc il y a un problème quand même. Il faut qu'on ait le courage entre malins de le dire complètement.
Et dans ce cas, que pourrait être l'impact du processus de DDR dans la gestion de cette crise?
C'est important. Le DDR en soi, il est une bonne chose. Mais sauf que il ne questionne pas les causes réelles en fait, du conflit. C'est d'où tous les biais en fait, du processus. Donc il est important aujourd'hui que la question d'éthique, que la question de la morale soit démise chez les agents de l'État. C'est ça le vrai souci. Vous empruntez un transport en commun pour la région de Mopti. Vous assistez à toutes ces scènes de raquettes dont les populations, les passagers font l'objet à l'entrée de la ville. Ou pensez-vous que des populations qui sont des agents de l'État, notamment en force de sécurité et de défense, qui sont censés protéger les populations, si ces agents les raquettent, les spolient, vous voulez que ceci ou celle-ci collabore avec nos forces difficilement. Donc c'est pour vous dire que même si l'on fait appel à la Pentagone, à toute l'armée américaine, qu'on fasse appel également à Quai d'Orsay, à toute l'armée française, si ces dynamiques locales ne sont pas est réellement questionné, difficilement on pourra arriver à une paix durable. Mais dans le même temps, ça c'est la part de l'État. Au-delà du macro, de ce niveau étatique, il faut aussi quand même sérieusement questionné la dimension locale. Vous avez quand même des localités qui ont des cultures qui ne sont pas propices à un vivre ensemble qu'on le souhaite autant. Lesquelles localités, justement, sont dans une sorte, si vous voulez, de hiérarchisation où, à la limite, il y a une sorte de préférence, hein, qu'on soit de telle ou telle ethnie. Ça, ce sont des questions quand même qui ne relèveraient pas forcément de l'État central, mais qui dépendrait ou qui résiderait dans notre perception même du social, dans notre perception même du culturel. Donc je pense que fondamentalement, prenez à titre d'exemple la question des castes, la question des hommes de second rang, ça, ce sont quand même des pratiques, même si on ne peut pas les taxer d'esclavagistes, mais pour le cas précis de la raison optique, il y a des communautés qui se considéreraient supérieures à d'autres. Vous avez quand même des communautés qui penseraient qu'elles ont toute, si vous voulez, toute la légitimité d'avoir la lieutenance de tout ce qui est foncé. Voilà, et ça, ce sont des questions quand même qu'il faut avoir le courage, que l'institutionnel arrive à gommer toutes ces singularités qui auraient pour fondement justement l'injustice. Toutes ces singularités qui auraient profondément l'exclusion d'une écrasante majorité. Ce n'est pas pour rien quand vous vous adressez au parcours des différents répentis, les différents acteurs qui avaient combattu avec le Front de Libération de Massina, s'il en existe, parce que je sais qu'il va dire qu'il n'existait pas. Et si vous regardez tous les combattants... Si vous regardez tous les combattants qui avaient été avec le Moujaou ou d'autres Katiba dans cette localité concernée aujourd'hui par l'insécurité, qui est la raison motive, vous avez rendu compte quand même que majoritairement, si ces acteurs ont une motivation commune, ce serait celle des raisons justement la quête d'un statut social beaucoup plus valorisant. Donc c'est pour vous dire qu'attention, si l'on continue à nier que la Constitution accorde naturellement l'égalité, établit l'égalité, l'équité entre tous les populations. Oui, mais sauf que l'état précis de la raison optique quand même, il est fondamental.
Dans les régions nord.
Oui.
Quand tu vas dans la communauté Tamashek,
c'est d'où la récurrence aussi.
Non, mais prends juste l'exemple de Bella. Bella, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui utilise sa force physique pour travailler. Donc, en fait, la hiérarchisation que tu dis, c'est une question réelle au Mali, de façon générale, mais même à Bamako. Quand on dit les nobles, les horons, et qu'on dit les Nyamakala et les autres, qu'on le veut ou pas, c'est vrai qu'avec l'argent aujourd'hui, on arrive à renégocier sa place et donc à être quelqu'un qui compte le plus. Mais de façon générale au Mali, on a quand même ce problème de hiérarchisation que tu évoques, qu'on retrouve dans la région de Mopti. Et ce qu'on retrouve dans la région de Mopti là, on le retrouve dans la région de Kayes. Et même si tu sais, en milieu Soninké par exemple, même dans les foyers, malgré un contexte migratoire, il y a quelques Soninké qui avaient les compétences théoriques, académiques et autres là, qui ont eu du mal à se faire élire comme étant chef, je ne sais pas, secrétaire général de l'association, parce qu'on le rappelait sans cesse qu'il était fils d'un captif au Mali, enfin à Mopti, c'est une réalité.
Donc,
ce que je veux dire, c'est qu'en fait...
C'est d'où d'ailleurs un début de l'extrémisme violent à Kayes.
Absolument, non, ce que je veux dire...
Au nom de cette hiérarchisation sociale.
Ce que tu dis, que en fait, l'adhésion de certains individus, que le leitmotiv soit une quête de mobilité sociale, d'un meilleur statut social, ça c'est une réalité. Et de toute façon, quand on voit partout où il y a un extrémisme violent au Mali, de plus, même si au début le leadership n'est pas local, par la suite le leadership s'affirme toujours être local. C'est lui qui dirigeait Douanzan en 2012, c'est quelqu'un qui avait fait son second cycle à Douanzan. Donc ça, c'est partout où en fait ça commence, on voit ça. Il y a une quête de mobilité sociale, c'est normal qu'à travers les armes d'autres personnes s'imposent.
Donc toutes ces réalités que vous venez de citer mettent un frein au DDR.
Ça met fin en fait, ça constitue à mon avis un obstacle au DDR. Mais le problème, c'est qu'au fond, le DDR, de toute façon, pour moi, c'est toujours un business. Partout où ça a été expérimenté, on est arrivé à faire plaisir à certains, parce que certains sont plus proches de nous, de ceux qui mettent en œuvre le processus, et en fait, on met de côté d'autres. Mais de toute façon, vous ne verrez nulle part où il y a eu DDR que les leaders des groupes ont véritablement le nombre de combattants qui revendiquent. Que ce soit les DDR pour les régions dites du Nord, comme dit Ali d'ailleurs, c'est même bien qu'on ajoute dites du Nord, parce que bon, tout ce qu'on considère comme étant Nord n'est pas forcément le Nord. Souvent, c'est le Nord-Est ou c'est l'Est carrément pour certaines localités. Donc, là, c'est un gros business dans lequel chacun va essayer de trouver un peu sa part. Il y a deux choses qui vont se passer. Aujourd'hui, l'État, enfin, quand je ne peux pas dire l'État, le gouvernement malien préfère s'appuyer sur la milice en bas en Sagou, donc la milice Dogon. Mm-hmm. Qu'est-ce qui va arriver ? il y aura, par ce truchement-là, la possibilité pour certains d'adhérer à l'armée conventionnelle.
D'autres, pensez-vous cela réellement possible?
C'est clair que ça va arriver. De toute façon, on a même dit lors d'une de ces visites au centre, l'avant-dernière visite au centre, que 200 combattants de ce groupe-là, c'est lui-même le premier ministre qui l'a annoncé, 200 combattants seraient démobilisés et qui pourraient éventuellement adhérer, en tout cas, ils vont trouver la formule à les adhérer. Donc c'est par la suite qu'il a annoncé le DDR. Bon, quoi qu'il en soit, à un moment donné, quelques-uns, qu'ils le soient adhérés directement, qu'on les fasse adhérer directement à l'armée conventionnelle ou qu'on trouve en tout cas un mécanisme de collaboration avec l'armée, ce serait de la sous-traitance de la sécurité. Mais et en faisant cela, oui, on va en fait, je pense, contribuer à raviver, je pense, les tensions au niveau local, et cela ne peut créer que des frustrations. L'État doit avoir le monopole de la violence légitime. L'État, le gouvernement doit trouver des moyens pour doter davantage les forces armées de sécurité et faire en sorte que le recrutement au sein de l'armée soit un recrutement assez ouvert, un recrutement sur lequel, en fait, c'est pas seulement les fils des officiers qu'on arrive à faire adhérer à l'EMIA, en fait, à l'ESO, à des choses comme ça. C'est ça, en fait, le problème au Mali. Et ensuite, la seconde chose, je pense que l'erreur, quand on dit DDR, quand je dis business, c'est qu'il y a quelques-uns qu'on va voir physiquement, ils n'ont pas l'aptitude, en tout cas, d'appartenir à peu importe le forme militaire qu'on veut, que ce soit les gendarmes et autres, mais qui vont se retrouver avec 2-3 millions de francs CFA. Ils vont essayer d'ouvrir, en fait, on va les obliger à devenir des sortes d'entrepreneurs. Or, n'est pas entrepreneur qui veut. Moi, ce que je regrette, c'est que, en soi, l'esprit est bon, mais si on n'y prend pas garde, on crée un appel d'air. On crée un appel d'air pour les cousins, les amis, les neveux, en fait, des copines, des choses comme ça. Et finalement, c'est ceux qui ont les bras longs, comme on dit au Mali, qui ont les relations, qui vont bénéficier de ces DDR et les vrais acteurs qui souffrent au quotidien.
Mais direz-vous que tous les aspects que vous venez de citer, ne va-t-il pas avoir théoriquement plusieurs créations de milices dans ce cas?
Mais bien sûr, mais c'est pour ça que dès le début, quand on a annoncé le plan de DDR pour les régions du Nord, et qu'on a dit 30 milliards, à l'époque, nous, on avait fait des séries de réflexions avec Ousmane Sy et le représentant du président de la République, le général Diagouraga, Alinou Diallo ou d'autres. Et en 2016, nous avons fait des séries de choses avec des recommandations spécifiques pour la région du centre. Les rapports sont là. Nous avions à l'époque même proposé la mise en place d'un comité de pilotage pour éviter la prolifération des acteurs qui allaient voir l'État et chaque acteur qui prétend être l'interlocuteur privilégié avec lequel il faut discuter. À l'époque, Amasangou, Ansagou n'était pas créé. Alliance pour le Sahel, Salut au Sahel, la milice dite Peul, Mali, Burkina, Niger n'était pas créé. À l'époque, il n'y avait que le groupe de Oumar Al-Diana en Sigir, et il y avait Hamafouné qui avait venu de déposer les armes et qui avait en tout cas tendu sa main et qui avait rejoint à l'époque la plateforme. Donc, en fait, la saga, pour moi, on va assister en fait à une saga des groupes qui vont se créer, ou en tout cas des choses qui vont y se ressembler, ou des gens même qui vont proposer des listes et qui vont se retrouver. Nous, nos anciens étudiants, malheureusement, vont en fait adhérer à ces groupes-là. Bon, tant mieux si c'est un moyen pour eux d'avoir quelque chose dans ces pays-là où il y a forcément il y a un chômage qui les attend à la fin de la formation. Donc le DDR est une opportunité pour faire quelque chose, d'accord. Mais pour moi, il ne faut pas créer un appel d'air. Si le diagnostic est mauvais, on va dilapider de l'argent. Ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui vont avoir leur part. Leurs amis, leurs parents vont aussi avoir quelques éléments qui vont intégrer l'armée. Mais s'il n'y a pas une conviction derrière, le cycle va continuer.
D'accord. Oui, M. Tungara, votre réaction?
Je pense que ce qu'il dénote, c'est tout à fait vrai. En termes de conséquences qui pourraient en découler, c'est d'ailleurs biaisé de son origine. Mais je pense fondamentalement, au-delà des solutions macro, il faut quand même qu'on ait aussi un œil vigilant vis-à-vis de ce qui se passe au niveau dynamique local. Parce que moi, je pense fondamentalement, pour le cas précis de la région, certes, l'injustice elle est au cœur du souci, ça, incontestablement, quel que soit le côté auquel nous nous retrouvons. Mais je pense que fondamentalement, comment peut-on proposer des solutions durables à une telle situation de conflictualité, sans pour autant quand même nous questionner sur les rapports qu'ont les différentes communautés entre elles. Ça, c'est quand même fondamental. Parce que quand je me suis intéressé aux récentes attaques qui ont lié entre la frontière Mali-Burkina, je me suis aperçu quand même que au-delà des réponses militaires, au-delà de tout ce que l'État propose en termes d'offres sécuritaires, les populations sont quand même dans des clichés. Parce que je ne peux pas comprendre que les Dogons, majoritairement qui seraient dans ces différentes localités concernées par l'insécurité, aient des regards aussi condescendants vis-à-vis des peuples. Ouais, ça n'aide pas les solutions à ce qu'elles soit incorporé par les populations qui sont censées en bénéficier. Donc c'est pour vous dire que s'agissant toujours de cette question de hiérarchisation, elle est quand même fondamentale, parce que vous allez croiser des pelles qui vous diront que voilà, les Dogons pensent qu'ils ne sont pas propriétaires des terres. Ouais, ça, ce sont des soucis qu'il faut vraiment régler. Et entre pelles aussi, hein, il ne faut pas quand même tomber dans la généralisation. Vous avez quand même une minorité qui s'accaparerait des ressources naturelles dans certaines localités, où vous avez une écrasante majorité des pelles qui seraient tout à fait des côtés. Donc c'est pour vous dire que au-delà des solutions militaires, au-delà de tout ce que l'État nous propose comme solution, il est important que les terroirs aussi qu'on remette en question justement son fonctionnement, parce que le terroir il est quand même aussi rythmé par des calculs tout à fait rationnels, hein. Les gens, n'oubliez pas non plus de rappeler que dans ces conflits vous avez quand même des business qui se développent, hein. Il est dit d'ailleurs, lesquels business sont aussi développés à partir du local. Vous avez, ce n'est pas pour rien que dans certaines localités ce sont les vendeurs d'armes, hein, qui sont les cibles privilégiées et de groupes armés extrémistes violents. Donc c'est pour vous dire qu'attention, les dynamiques conflictuelles, elles dépassent clairement les seules, si vous voulez, réponses qui sont apportées par l'État central, mais qui sont surtout davantage notre perception même du foncier, notre perception même de la gouvernance locale, derrière les rapports qui traversent les différentes communautés, sont des rapports aussi qui sont quand même tout à fait rythmés, pas des clichés, sont des rapports qui sont tout à fait rythmés par des phénomènes d'exclusion ou même par des phénomènes qui consisterait à prendre certains comme des citoyens de seconde zone. Donc vous voyez, ça, ce sont des configurations qu'il faut réellement les prendre au sérieux.
Oui. Sur un réseau de débats et de discussions, quelqu'un a publié quelques questions. On souhaiterait, si possible, que vous répondiez. Mm-hmm. Et nous allons commencer par vous, M. Tunkara. Mm-hmm. Le DDR de Mopti fait-il partie de l'accord dit d'Alger?
Non, je pense que lorsqu'on l'accord pour la paix d'Alger a été amorcé, certes, ça trouvait qu'effectivement la région de Mopti était tout à fait sous tension, mais c'est vrai que Mopti n'était pas inclus. Mais moi, je fais partie de ceux-là qui pensent fondamentalement qu'il ne faut pas succomber à une ouverture aussi anarchique du processus de réintégration, parce que en voulant apporter des solutions durables au problème d'insécurité, nous risquons même d'alimenter, ou en tout cas d'encourager l'émergence des milices dites communautaires ou des milices qui se revendiqueraient d'une cativa. Donc il est extrêmement dangereux que l'État central cherche à apporter des réponses à des problèmes aussi sociaux, voire des problèmes aussi sociétaux, au nom du référent communautaire, au nom du référent géographique. Moi, je pense que ça n'aide pas à trouver des solutions durables. Si vous regardez aujourd'hui toutes les régions dites nord du Mali, c'est exactement cette scène justement de polarisation à laquelle nous assistons. D'un côté, vous avez des Noirs, ou en tout cas des milices qui seraient majoritairement noires. De l'autre, nous avons des milices qui seraient majoritairement de peau dite rouge, comme on les appelle dans les régions dites nord du Mali. Donc c'est pour vous dire attention, pour les cas précis de la région de Mopti, n'allons pas avec des solutions qui auront pour nom l'ethnique, pas avec des solutions qui auront pour nom les communautaires. L'État a intérêt justement de désethniciser ces solutions. Ça, c'est extrêmement important.
D'accord. Oui, monsieur
Dicot. La réponse à votre question, c'est non.
Non. Ben voilà. D'accord. Alors, la deuxième question, c'est combien de référendums faudra-t-il organiser pour satisfaire tel ou tel seigneur de guerre? Je cite ces questions. Oui,
mais en fait, disons que il y a une prime à l'impunité au Mali. Et c'est pour ça que j'ai tout le temps dit qu'il faut éviter cette histoire de loi dite d'entente nationale qui veut le faire voter par une assemblée qui n'en est plus une, dont le mandat a expiré. Le mandat a été prolongé sans véritablement débat. Tous les députés sont contents parce que, bon, les indemnités mensuelles continuent. Mais on ne peut pas décréter l'entente nationale. Et cette entente nationale qui va être décrétée, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, a seulement pour objectif d'accorder d'une certaine manière une sorte d'amnistie en fait aussi aux seigneurs de guerre. Donc ça, ça rejoint en fait la question de notre confrère. Mm-hmm. Tant qu'on va faire donner une prime à la Kalachnikov, il y aura des référendums.
D'accord. Et vous, M. Tunkara?
Non, c'est vrai, il faut vraiment... Si toutefois les attentes du national les sont réellement, mais si vous regardez un peu le format, vous allez vous rendre compte que ces attentes ne sont pas inclusives. Elles ne sont même pas à la limite consensuelle, parce que qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ce sont quelques experts, s'ils le sont d'ailleurs, ce sont quelques personnalités qui seraient appelées ça et là par l'État central, lesquelles personnalités seraient même très souvent, des phasage avec les réalités du local. Donc, c'est pour vous dire qu'attention, vous ne pouvez pas proposer des solutions aux souffrances des populations tout en mettant ces mêmes populations sous la touche. Je pense fondamentalement, pour le cas précis du Mali, le formel accorde peu d'importance aux logiques du terroir. Parce qu'on a l'impression que tous ceux-là qui ne détiennent pas des solutions académiques ou des solutions politiques seraient à la limite désarmés de toute capacité de réfléchir ou de proposer. Vous ne pouvez pas quand même me dire que la région de Mopti elle-même n'est pas capable de proposer des éléments concrets pour une paix durable. Donc je pense que fondamentalement, sortons dans la logique des perdièmes, sortons dans la logique des voyages intempestifs, pour réellement questionner les vrais acteurs. Lesquels vrais acteurs ne sont pas forcément dans des salons bamakois, lesquels vrais acteurs ne sont pas forcément dans des salons à Sévaré, mais lesquels acteurs, pour réellement le saisir, il faut aller sur le terrain. Et pour ce faire, je pense que le formel, qui est l'État central, il doit avoir justement l'intelligence d'élargir justement ces différents espaces de dialogue substantiels, quand même, qui sont censés trouver des solutions qui soient communes pour toute la communauté. Mais je pense fondamentalement, si vous regardez déjà les acteurs qui composent ces différentes assises, vous allez vous rendre compte quand même que ceux-ci ont même un problème de légitimité, sincèrement. Et ceux-là qui sont légitimes ne sont pas forcément associés ou les sont très peu.
Ok. Et nous formons cette petite parenthèse. Que faut-il faire concrètement pour apaiser les tensions au nord et au centre du pays ?
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense qu'il faut sortir de cette hypocrisie collective. Quand je dis hypocrisie collective, pour les régions du nord, il y a trois acteurs majeurs. Donc, il y a le gouvernement malien, il y a la communauté dite internationale et il y a la coordination du mouvement de la Zawad. Bon, la communauté internationale, je commencerai par elle. Des accords ont été signés, il était question que tout le monde dépose les armes et que la souveraineté du Mali puisse s'exprimer partout. Et deux ans et plus tard maintenant, après la signature des accords d'Alger, Kidal n'est pas sous contrôle du Mali. Donc la communauté dite internationale, si elle est impartiale, doit aider le gouvernement malien à affirmer sa souveraineté partout, y compris à Kidal, qui n'est pas deux drapeaux. Le drapeau de la Zawad et le drapeau du gouvernement malien. Et ensuite, que donc la sécurité du gouverneur de Kidal soit assurée par des militaires maliens. Ça, la communauté internationale doit faire ça. Si elle ne fait pas ça, ça veut dire que, quelque part, elle joue un double jeu et qui ne profitera à personne à long terme. Maintenant, du côté du gouvernement malien, le président Ibeka, de mon point de vue, est assez inaccessible. Il n'y a pas un véritable portage politique de tout ce processus. S'il y avait peut-être quelqu'un, c'est pas quelqu'un comme John Gouda, c'est pas que je le regrette, mais au moins, on le voyait pratiquement à la télé tous les jours pour parler de ça. Et manifestement, de plus en plus, il s'efface. Donc c'est pas lui qui, on dirait qu'il n'est pas aux commandes. Et ça, il faudrait qu'il affirme, qu'il soit plus disponible pour parler de ces questions-là. Et donc c'est à partir de là qu'on peut voir du côté du Mali en répondant. Maintenant, du côté de la CEMA, eux, ils sont dans un jeu. Ils veulent une sorte d'autonomie. Ce qu'ils n'ont pas pu avoir par les armes, peut-être avec le découpage territorial qui est proposé et avec éventuellement le référendum, tout ça qu'on veut faire concernant le mois de mars, des choses comme ça, on finira par avoir en fait à l'Assemblée, qu'on le veuille ou pas, des députés qui n'ont aucune base juridique. On va créer des cercles pour faire plaisir à des gens. On va avoir même des cercles ethniques, ce qu'Ali dénonçait pour le centre, mais pour les régions du Nord, on aura exactement ça. Et au niveau de l'Assemblée, on finira par voter une sorte de partition du territoire, et c'est quelque chose qui se profile à l'horizon. Donc il faudrait que les Maliens se réveillent pour finir sur cette question-là. Maintenant, pour le centre, à mon avis, il y a un problème de coexistence de trois systèmes de production. Vous avez le système de production halieutique, donc la pêche, vous avez le système pastoral, vous avez le système agricole. Ali a dit à un moment donné que, bon, il y a certains acteurs qui ont une certaine prééminence. Certes, c'est une prééminence historique qui daterait de la dynastie de Sékou Amadou. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons la chance d'avoir la réforme de la décentralisation et le problème du centre ne peut se résoudre que par une sorte de discussion franche de tous les acteurs, avec une définition réelle des zones d'action de tout est.
Monsieur Tunkara.
Alors concrètement, je pense que qu'on commence déjà, ça va paraître un peu fou pour nos auditeurs et les spectateurs. À désethniciser les questions sociales, c'est important. J'ai du mal à comprendre une élite politique qui parlerait d'une ethnie ou qui parlerait d'une communauté. Un malfrat, il était malfrat, un terroriste est un terroriste. L'étiquetage communautaire, l'étiquetage géographique n'aide pas un État sérieux à avoir des solutions durables à ces difficultés auxquelles il fait l'objet. Donc je pense fondamentalement, pour le cas précis de la région Mopti, détenissons déjà l'attention, qu'on ne parle pas, ou il ne faut pas que les peuples sentent que l'État accorderait des faveurs aux Dogons, et vice-versa. De la même manière également, il est extrêmement important aujourd'hui que l'élite politique peule, l'élite militaire peule, l'élite politique Dogon, l'élite politique, l'élite judiciaire aussi Dogon, que ces différentes élites justement qui sont basées dans nos centres urbains et le courage de dire à leurs parents qui sont restés au village, stop au conflit, justement que l'État central également, en dernière instance, se rende compte que la légitimité de la violence l'incombe.
Et en ce qui concerne le Nord ?
En ce qui concerne le Nord, mais je pense que la question elle est très complexe parce qu'il y a quand même des acteurs qui ont des finalités tout à fait différentes. Docteur Dico l'a évoqué très rapidement. Vous avez quand même des indépendantistes. D'un côté, on assiste à une scène de légitimation même du référent communautaire. Et de la même manière également, une communauté internationale qui ne serait pas là pour les beaux yeux des Maliens, mais plutôt qui serait plus dans des dynamiques plus économiques qu'humaines.
Merci beaucoup. Et cela me fait à ce débat sur le processus DDR dans le centre du pays. Merci à nos invités, Dr Ali Tunkara, sociologue, chercheur, Dr Brema Elidiko, professeur à l'Université du Mali. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Gagny Kanté. La régie est assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Haloud Mandi.
Chenne Beri, Sigi Kafoba.